Une seule chose est visible dans le monde crépusculaire du désir. Et on l'appelle le seuil, la forteresse du désir. Le seuil est plus grand qu'on ne pourrait l'imaginer, peut-être 30 mètres de haut. Dressé au milieu d'une plaine plate et déserte, s'étendant à l'infini. La plaine est grise. Le ciel au-dessus est gris. Quelques étoiles scintillent, mais pas de soleil, ni de lune. Cela a toujours été et sera toujours. Le désir a toujours vécu à la limite. La forteresse est la seule structure qu'on y trouve. Une statue du désir lui-même, ou elle-même, ou eux-mêmes. Car le désir ne se satisfait jamais d'un seul sexe. Et cela vaut pour tout, à l'exception peut-être du seuil en lui-même, qui se tient, unique et dressé, ses bras grands ouverts et son visage animé d'un sourire béat. Les cheveux sont courts, le visage est d'une beauté sans ambiguïté, quel que soit le genre qu'on lui assigne. C'est un corps provocant. Il n'a pas l'ambivalence sexuelle de l'ange Lucifer, pur et immaculé, mais une voracité véritable, pas seulement de sexe, mais de tout, résolument, absolument tout. Ainsi, le seuil est un portrait du désir, dans ses moindres détails, bâti pour son bon plaisir, avec du sang, de la chair, des os et de la peau. Mais un aspect ne reflète pas l'apparence actuelle du créateur de la forteresse. Le torse de la statue est ouvert en deux, comme pour une chirurgie cardiaque. La chair, ouverte en croix, est rabattue et arrimée au torse qui l'entoure, exposant son cœur. Si en haut le visage, aux yeux vides, sourit en direction du ciel gris, le torse de la forteresse révèle du tissu musculaire, des côtes distinctes et une partie du poumon droit. Au-dessus du cœur qui bat visiblement, se trouvent l'aorte, la veine cave et l'artère pulmonaire. Il n'y a qu'un seul occupant ces temps-ci, le désir, membre des infinis.
The Sandman. La maison de poupée.
Le seuil, cette statue, est bien trop grande pour une seule personne. Elle contient deux tympans vides, plus grands qu'une dizaine de salles de bal en marbre, et des veines vides comme des tunnels remplis d'échos. On pourrait les parcourir jusqu'à mourir de vieillesse, sans jamais revenir sur ses pas. Étant donné la nature du désir, il n'y a qu'un lieu dans la cathédrale de son corps où habiter vraiment. Le désir vit dans le cœur. Le désir se rend à l'autre bout de la salle, enclose dans le cœur de la statue. Mais on ne voit de ligne droite nulle part ailleurs. Les murs sont colorés de bleu et de violets organiques et décorés de tentures et de tapisseries. Les portes ont des formes irrégulières. Contrairement à la statue, le désir est vêtu d'un costume à fines rayures et d'une cravate, les cheveux plaqués en arrière. Elle, ou il, ou eux, arbore un sourire crispé, dépourvu d'humour. Le désir franchit l'une des portes en arcade irrégulière du cœur, débouchant dans un couloir plus étroit. Sur les murs sont accrochés les emblèmes de ses frères et sœurs. C'est par ces objets que les infinis communiquent les uns avec les autres. Le premier objet représente un livre, ancien, avec une couverture en cuir poussiéreux.
Le destin.
Le suivant est une croix en C.
La mort, ma chère sœur.
Le troisième emblème représente le casque de Morphée, le seigneur des rêves.
Grand frère, je te surveille.
Le désir passe devant l'endroit où devrait figurer son emblème. Il n'y a rien, juste un portrait, ou peut-être un miroir. À l'emplacement de l'emblème suivant, s'étend ensuite un espace nu, un vide.
Où es-tu ?
Le dernier emblème du mur est un tableau, une masse tourbillonnante de couleurs incontrôlables.
Oh, pauvre délire.
Mais avant cela, se trouve un anneau, une bague surmontée d'une sorte d'hameçon, selon un angle qui causerait une douleur immédiate à qui la porterait.
Désespoir, montre-toi, ma douce jumelle. Je suis dans ma galerie et je tiens ton emblème. Veux-tu bien me parler ?
Une forme apparaît dans l'air devant le désir, en trois dimensions, mais nébuleuse et légèrement translucide. Elle représente une femme nue, lourde, aux dents cassées, portant des cicatrices au visage et aux bras et des cheveux gras et noirs coiffés en chignon. C'est le désespoir.
Je suis toujours prête à t'écouter, désir. Parle.
J'ai des nouvelles.
Vraiment ? Le prodigue est de retour ?
Quoi ? Oh, lui, non, toujours introuvable. Non, je parle du rêve.
Tu cherches à nouveau à le prendre dans tes machinations ? Désir, les trois aînés ne jouent pas à nos petits jeux. Ça ne marchera pas, ça ne peut pas. Comme la dernière fois.
Oui, en effet, Nada était une erreur. Mais les choses ont changé, ma belle, ma jumelle. Il existe un vortex de rêve, le premier depuis longtemps, et il occupe une femme humaine.
Le désespoir porte au doigt la bague hameçonnée, et elle déchire négligemment sa joue charnue et souriante.
Un vortex. Oh, donc on attend.
Ne sommes-nous pas infinis, reine du désespoir ? Oui, on attend.
Oh, je vois. Enfin, peut-être. Oh, n'en dis pas plus. Il faut que j'y réfléchisse. Au revoir.
Au revoir, ma jumelle.
Le désir remet en place l'emblème de la bague hameçonnée. Le désir a une nouvelle stratégie qui le satisfait. Pour l'instant.
Avez-vous une envie dévorante ? Quelque chose de sexuel ? Quelqu'un de spécial ? Un objet précieux ? N'importe quoi ? Alors vous avez éprouvé cela. Il est là, dans ce besoin, cette convoitise. Le souffle du désir. La caresse du seuil.
Maman m'a réveillée au moment de l'atterrissage.
Rose, réveille-toi.
J'avais les jambes engourdies et je me sentais pas très bien.
Serre ta ceinture, tu veux ?
Non.
Miranda Walker a 56 ans. Fine, nerveuse, cheveux légèrement grisonnants. Classe moyenne américaine typique. Ni bien habillée, ni mal habillée. Elle voudra une cigarette à la sortie de l'avion. Plusieurs, en fait. Elle fume beaucoup trop. Rose Walker a 21 ans. Plutôt frêle, avec un corps de danseuse classique. Ses cheveux blonds, assez courts, sont teints en rouge, blond et noir. Pas de maquillage, des lèvres pâles, de grands yeux verts. Elle porte un chemisier assez ample et un jean.
Rose, réveille-toi.
Maman... J'ai fait un rêve très bizarre.
Il y avait un énorme Britannique obèse et des femmes. On vivait dans une maison. T'étais dans le rêve et je retrouvais Jed.
Mmh.
Maman ne s'intéressait pas aux rêves à l'époque.
Rose, serre ta ceinture, tu veux ? L'aéroport de Gatwick, il est loin de Londres ?
Qu'est-ce que j'en sais ? J'ai l'impression d'avoir une bestiole crevée dans la bouche.
Ah oui ? J'ai des bonbons à la menthe quelque part dans mon sac. Ah, c'est tout vert. Regarde ces champs. Notre premier séjour en Angleterre.
Pas le premier pour toi, maman. T'es née ici.
C'était il y a longtemps, ma chérie. J'étais toute petite quand papy et mamie sont partis aux États-Unis. Je m'en souviens pas.
Il nous a fallu environ une heure pour récupérer nos sacs et passer la douane.
Oh, une cigarette. C'est pas trop tôt.
Maman, là-bas, ça doit être le type qu'on doit retrouver. Même s'il n'avait pas tenu une pancarte avec notre nom, l'homme se distinguait des chauffeurs de taxi rustiques dispersés près de la barrière. Cheveux gris, costume noir, cravate sobre. Il ne lui manquait qu'un chapeau melon.
Bonjour, vous êtes l'avocat ? Monsieur Hadawell ?
All the way, madame. Nous préférons le terme d'avoué de ce côté de l'Atlantique. Je suppose que vous êtes madame Walker ?
Bien sûr, qui d'autre ? Je suis Miranda Walker, et voici ma fille, Rose.
Bonjour.
Il semblait sortir d'une grande pièce de théâtre. Maman était très impressionnée. Mais pas moi.
Laissez-moi prendre vos bagages, madame Walker. Par ici.
Dites-moi, maintenant que nous sommes là, pouvez-vous enfin m'expliquer de quoi il s'agit ? Nous sommes très reconnaissantes, bien sûr. Des vacances gratuites en Angleterre, quand même.
Tout vous sera expliqué très bientôt. À présent, si vous voulez bien me suivre, la voiture est au parking de ce côté.
5 minutes pour sortir de l'aéroport et nous roulions dans la campagne britannique. Rien de transcendant, mais maman avait l'air d'apprécier.
Oh, c'est tellement vert ! Ça vient de toute cette pluie, non ?
Comme vous dites.
Alors, quand est-ce qu'on va rencontrer notre mystérieux bienfaiteur, Monsieur Holdaway ?
Sa résidence est à environ 20 minutes d'ici.
Il doit être très riche pour nous faire venir ici en avion pendant 2 semaines.
Oui, elle est riche.
Elle ? Oh ! Je ne tenais plus en place quand j'ai reçu votre lettre. J'ai appelé Rose et je lui ai dit « Rose, on part en Angleterre ». Elle a cru que c'était une plaisanterie au début. Pas vrai, Rose ? Rose ? Rose ! Alors ça, vous le croyez, Monsieur Holdaway ? Elle s'est encore endormie.
Oh, je t'en prie, Abel. Si j'avais voulu des ragots et des commérages de bas étage sur des tourbillons, je te les aurais demandés.
C'est quoi cet endroit ? Qui sont ces gens ?
Ceux qui s'endorment entrent dans le songe, le royaume de Morphée, seigneur des rêves. Rose, dans son rêve, voit le bibliothécaire de Morphée, Lucien, qui tente de recenser les divers occupants des lieux. L'habitant de la maison des secrets se montre relativement flou sur la question.
Tout ce que je veux, c'est une liste des entités qui résident ici.
Lucien, invraisemblablement grand, porte des lunettes et une tenue de professeur victorien, un volumineux registre dans une main et une plume dans l'autre.
Si vous voulez, il y a moi et il y a la maison elle-même, bien sûr, et le démon en bouteille.
Abel, régulièrement assassiné par son frère Cain, se tient sur le pas de la porte avec Goldie, le bébé gargouille, perché sur son épaule.
Il y a probablement une sorte de d'horreur indicible dans le sous-sol, mais je n'y descends jamais. Oh Seigneur, je crois avoir omis mon ami par inadvertance.
Le bébé gargouille ?
Elle s'appelle Goldie.
Trop mignonne.
C'est mieux. Alors, toi, Abel, notez. La maison des secrets, notez. Le démon en bouteille, notez. Une horreur indicible à la cave.
Sous-sol.
Au sous-sol, notez. Et un bébé gargouille appelé Goldie. Elle est nouvelle, non ?
Oh oui, bien sûr.
Merci, Abel. Tout m'a l'air en ordre. Et ne va pas répandre de sottes rumeurs, compris ? Oui, merci à toi aussi, Goldie.
Le palais du Seigneur des Rêves n'est plus la ruine qu'il était lors de son premier retour de captivité. Non que Rose Walker, endormie, connaisse son histoire. Elle rêve de tours élégantes et de murs parsemés de gemmes et de joyaux qui ne s'étend pas sur des hectares, mais bien des kilomètres carrés.
11 001, 11 002, 11 003.
Lucien, les yeux sur son registre, remonte l'allée jusqu'à une porte immense, gardée, ce qui inquiète Rose, par trois énormes créatures mythologiques. Une vouivre, un hippogriffe et un griffon. Ces derniers lui accordent le passage par la grande porte extérieure.
11 040.
Le palais du rêve contient bien des salles. Sans surprise, dans un songe, et celui de Rose en particulier, aucune ne paraît logiquement reliée à la suivante. Le couloir est bordé d'armures. Lucien s'agite en chemin, perdu dans ses calculs. Dans la pièce suivante, les armures font place à des mannequins, sans vêtements, entourant une gigantesque piscine. Le seul moyen de la traverser est de marcher sur une longue planche instable. Lucien y prête à peine attention. Chaque salle offre de nouvelles incohérences. Le rêve de Rose semble presque aléatoire tant il est varié. Pourtant, Lucien en est l'élément constant, refusant d'être dérangé.
11 058, 11 059, 11 060.
La salle que traverse le métro ne semble pas le troubler le moins du monde.
62. Il me semblait bien. Seuls quatre gros restent introuvables. J'ai terminé le recensement, Seigneur.
Bonjour, Lucien.
La salle du trône du rêve est gigantesque, voûtée et gothique. Ses fenêtres en ogive couvertes de lourdes draperies sont la dernière barrière contre la démence du rêve pur qui occupe le vrai cœur du songe. Le trône occupe le centre de la salle, un siège énorme taillé dans un seul bloc de marbre noir. Morphée se tient sur les marches menant à son trône, avec sa tenue noire aux ourlets brodés de flammes. Tout chez lui évoque le sombre roi immortel non humain.
Waouh !
Ses yeux enfoncés, comme des trous noirs abritant deux étoiles. Il semble pensif, prenant place sur son trône.
Quelles nouvelles m'apportes-tu ?
Une bonne et une mauvaise, Seigneur.
Tu les as tous comptées, je présume.
Oui, Seigneur. Ils sont au nombre de 11 062. Quelques nocturnes manquent à l'appel, des rêves et créatures secondaires. Nous avons aussi une poignée de nouvelles entités.
C'était plutôt prévisible. Et quelle est la mauvaise nouvelle ?
Quatre des arcanes majeurs manquent à l'appel. On ne les retrouve pas dans le songe.
Leur nom ?
Brut et Globe, du personnel du palais, Seigneur. Comme je vous l'ai dit, ils ont disparu voilà quelques décennies. Je suppose aux lisières du songe, pourtant on ne les trouve nulle part. J'ai toujours douté d'eux, Seigneur.
La loyauté n'était pas dans leur nature, Lucien. Qui sont les autres ?
Eh bien, le Corinthien.
Je vois. C'est peut-être une mauvaise nouvelle. Le Corinthien n'est pas le plus sociable des cauchemars. Et le quatrième ?
Il s'agit du prêt du violoneux. Il n'est pas dans le songe. Nulle part. J'ai vérifié deux fois.
Le prêt du violoneux a disparu. Voilà qui est étrange, Lucien. Il est, après tout, vavasseur de son propre territoire. Et toujours si fiable.
En effet.
Toutes ces absences sont troublantes, Lucien. Je n'aime pas l'idée que quatre puissantes créatures se soient échappées du songe. C'est ma faute, si j'avais été là, à remplir ma fonction.
Ce n'est pas votre faute, Seigneur.
Ah non ? Alors de qui est-ce la faute ?
J'ai d'autres nouvelles, Seigneur. De simples rumeurs parmi les nocturnes, bien sûr, mais elles peuvent peut-être nous éclairer dans ces circonstances. Lors de mes voyages pour le recensement, j'ai régulièrement entendu les mêmes murmures auprès du peuple. On parlerait d'un vortex, Seigneur. Peut-être souhaiteriez-vous aller enquêter.
C'est déjà fait. Les rumeurs disent vrai, Lucien. Il y a bel et bien un vortex, un véritable Annelay. Le premier de cette ère.
Alors il vous faut le chasser, Seigneur. On doit le contrôler.
Je n'en ferai rien, Lucien. Tu n'as pas lieu de t'alarmer. Le vortex est une femme, pas une chose. Regarde attentivement et tu la verras qui nous observe en ce moment dans un coin de cette salle.
Quoi ?
Mais vous avez raison, sire. La matière essentielle d'un vortex.
C'est moi. Il me regarde, moi.
Et elle est si jeune.
Non, mais je rêve.
Rose, réveille-toi, Rosie. On est arrivé.
Ça doit être le voyage. Encore un rêve bizarre. Oh, comme un conte de fées. Des gens bizarres, des rois et des gobelins qui me regardaient.
Allons, chérie, tu dors encore à moitié. On y est. Dites-moi, cette cliente, c'est à elle tout ça ?
Non, Madame Walker, nous nous trouvons dans une maison de retraite privée. Ma cliente est simplement pensionnaire. Entrons donc.
C'est quoi un Annelay ?
C'est une sorte de bague, il me semble. Un mot ancien. Voilà une question bien peu commune. Par ici.
Merci.
Un Annelay ? Où avez-vous croisé un mot pareil, jeune fille ?
J'avais raison. Holdaway est un abruti. Je sais pas, je crois que c'était quelque chose dans mon rêve. Et s'il vous plaît, pas de jeune fille. J'ai 21 ans et je n'aurais pas apprécié, même à 10 ans.
Veuillez m'excuser, Mademoiselle Walker. Miss Kincaid, vos invités sont là.
Entrez, je vous prie. Ce n'est pas fermé. Entrez. Entrez.
Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Pas à elle. Des petits yeux clairs. Des cheveux presque blancs avec une mèche plus sombre. Une robe démodée au col en dentelle. D'après maman, elle a dans les 90 ans, mais elle semble plus jeune, comme si elle n'avait pas utilisé son visage pendant 70 ans, le préservant de toute ride. Elle semble perdue, fragile, comme une poupée de porcelaine, et étrangement familière. Mais pourquoi ?
Bonjour, tu es Miranda Walker et tu dois être Rose. Approchez, mes chéris. Toutes les deux, laissez-moi vous regarder. Je suis Unity, Unity Kincaid. Oui, ah oui, asseyez-vous à côté de moi, s'il vous plaît. Voici ma chambre. J'ai pensé un moment à déménager, mais la maison de Bedford Square a été vendue il y a longtemps et je vis ici depuis une éternité. Plus de 30 ans, me dit-on.
Ça ressemble à une vieille chambre d'hôtel dans un hôtel de luxe, mais hors d'âge. Sur la table de chevet se trouve un réveil, un verre d'eau et un dossier avec des documents et des photos. Mais c'est une vieille maison de poupée sur la table en face qui retient mon attention.
C'est tout ce qu'il me reste de l'ancienne maison. Les Holdaway ont tenu à la garder lorsqu'on a vendu les meubles avec quelques autres objets personnels. Excusez-moi pour tous ces mystères. C'est entièrement ma faute. Je voulais vous voir toutes les deux, voyez-vous, et j'ai pensé que si on commençait par tout vous expliquer, vous ne voudriez pas venir. Et ça, je ne l'aurais pas supporté. Jack, laissez-nous, merci.
Bien sûr, Miss Kincaid. J'attendrai en bas, dans le séjour.
Je ne me souviens pas de lui, mais j'ai connu son père, ou peut-être même son grand-père. Les Holdaway sont les avoués de la famille depuis la révolte de 45.
Écoutez, Miss Kincaid, je ne veux pas passer pour une malpolie ou une ingrate, mais de quoi s'agit-il vraiment ?
Regarde dans le miroir. Toi aussi, Rose.
Quoi ?
Tu ne remarques rien. Je suis ta mère, Miranda. Et Rose, je suis ta grand-mère. Vous ne voyez pas ?
Vous... C'est faux. Ma mère, elle est morte. Je la connaissais.
C'est fou. Non.
Chut. Rose, chérie, tu peux attendre dehors, s'il te plaît. Je dois discuter avec ta mère en privé.
Ok.
Miranda. Assieds-toi ici, chérie. Je t'en prie, ne pleure pas. J'ai des documents à te montrer.
Waouh. C'est vrai. Je sais que c'est vrai, même si maman ne le voit pas. Mais ce n'est pas le genre de choses qui arrivent normalement. Ça arrive aux autres. Il se passe tellement de choses. Si seulement je me souvenais de mon rêve. Il y avait un homme en noir... Non, pas en noir. Ses vêtements ressemblaient à... Il était vêtu comme la nuit. Psst, hein? Théo.
Par ici, ma puce.
Dans le couloir, la porte suivante est entrouverte. La pièce est plongée dans l'obscurité.
Qui est là?
Bonjour, Rose Walker.
On se connaît?
On est dans le noir, mais j'entends trois voix. Des voix de femmes.
Bonjour, Rose Walker.
Celle-ci semble être la plus jeune.
Tu es un croisement, Rose.
Tu as tant appris aujourd'hui, cher enfant.
Celle-ci a une voix de sorcière.
Toute ta famille, petit papillon, réunis pour la première fois.
Elle a l'air plus gentille, comme une mère.
Tous ensemble, sauf ton frère, bien sûr.
Jed? Vous connaissez Jed? Qui êtes-vous?
Les noms. Chacun n'est qu'une facette de l'ensemble. Estime-toi heureuse de la Trinité qui te fait face. Par exemple, tu n'aurais pas aimé rencontrer les bienveillantes.
Les quoi?
Nous pouvons seulement t'avertir, petite sœur. Nous ne pouvons te protéger.
Me protéger? Mais de quoi?
De la vie, Rosie, ma puce. Et de plus que la vie, des choses qui rôdent au-delà de la vie, qui se jettent contre ces murs, espérant trouver une entrée. Ma fille, car aux rêves et aux maisons.
Qui êtes-vous? Votre voix change tout le temps. Enfin, combien vous êtes?
Je suis une, et trois, et plusieurs. Mais ce n'est pas la bonne question, mon enfant. Si tu avais posé la bonne, je t'aurais mise en garde contre le Corinthien. Je t'aurais parlé de Jed et de Morphée. Et désormais, tu vas devoir tout découvrir par toi-même.
Je regrette, mais ce sera tout pour cette fois. Dommage.
Bonne chance, mon poussin, ma fille.
Ma sœur.
Mon enfant!
J'ai rien compris du tout. De quoi vous parlez? C'est quoi cette pièce? Il est où l'interrupteur? Hein? Un placard à balai.
Rose? Tout va bien, ma chérie? Désolée de t'avoir fait peur.
T'as pleuré.
Allez, viens, Rosie. Je crois que ta grand-mère et moi avons beaucoup à te dire.
Ma grand-mère?
Oui. Tout est vrai, Trésor. C'est vraiment ma mère. Allez, viens.
Tout va bien.
J'étais malade. Pendant très longtemps, ma chérie. J'ai dormi pendant des décennies. Je ne suis revenue à moi que l'année dernière, mais pourtant, pendant que j'étais malade, j'ai eu un enfant.
Mais si tu dormais?
Et c'était ta mère, Rose. C'était Miranda.
Oh.
Ma famille s'est arrangée pour faire adopter le bébé. Une fois rétabli, j'ai appelé Monsieur Holdaway, je lui ai demandé de retrouver mon bébé. Au début, il m'a menti. Puis il a fini par avouer la vérité. J'avais bien eu un bébé.
J'écoute l'histoire d'Unity, mais quelque chose capte mon regard dans la maison de poupée. Ce n'est qu'un effet d'optique, mais je crois voir une silhouette à l'une des fenêtres de l'étage, appuyée au rebord qui nous écoute.
Je suis une femme très riche. Nous avons payé des détectives pour trouver l'enfant.
La silhouette est vêtue de noir, avec un visage blanc surmonté d'une tignasse noire.
La piste était très ancienne, mais nous avons trouvé des sources.
Ses yeux sont des trous noirs, avec des étoiles pour iris.
Et ils ont fini par trouver Miranda. Et toi, Rose? J'ai demandé à Holdaway de vous envoyer deux lettres et des billets. Et puis, vous voilà. Toute la famille, réunie pour la première fois.
Toutes, sauf Jed. Est-ce que maman lui a parlé de Jed?
J'ai presque 90 ans, Rose. Mais j'ai vécu seulement 17 années de mon existence. D'une certaine manière, je suis plus jeune que toi. Je devrais t'offrir quelque chose, non? Tiens, un cadeau pour toi. Une bague?
Là ne l'est.
Quoi?
Tout va se réaliser, c'est ça? Mes rêves?
De quoi est-ce que tu parles, Trésor?
Qu'est-ce qui m'arrive, maman? Les femmes dans le placard, elles connaissaient Jed. Elles m'ont dit de me méfier du Corinthien.
C'est quoi, le Corinthien?
Ne bouge pas.
Votre vin, monsieur.
Merci.
N'hésitez pas à rappeler le room service si vous voulez autre chose.
Entendu. Vous êtes bien aimable. Merci. C'est bien. Tu m'as écouté. Tu n'as pas bougé d'un pouce. Attends. Je desserre ça.
Écoutez, monsieur. J'ai dit que j'étais d'accord pour les trucs vicieux, mais... Écoutez, détachez-moi. Je ferai tout ce que vous voudrez, mais je vous en prie.
Davy, j'ai dit qu'on allait seulement s'amuser, pas vrai?
Ouais, s'amuser, c'est ça.
Laisse-moi retirer mes lunettes, que je te vois mieux.
Merde! Vos yeux, c'est des bouches? Comment elles ont des dents?
Alors, Davy?
C'est un cauchemar!
Amusons-nous!